Mesdames et messieurs, bienvenue dans cette deuxième partie de l'émission au Capi Service. C'est un plaisir de vous retrouver encore pour vous servir. Au micro, c'est Jody Daniel Nkashama. Alors, dans cette deuxième partie de ce programme, nous allons parler de la commémoration du génocide congolais. Génocoste, quelle est son opportunité et comment s'est passée cette célébration, comment se fera l'indemnisation des victimes, etc., la réparation. On va aborder toutes ces questions avec les responsables du FONAREV, qui est le Fonds National des Réparations des Victimes des Violences Sexuelles liées aux conflits armés et aux crimes graves. Des questions et préoccupations, eh bien, n'appelez pas, envoyez une note vocale au 099-706-9941. Vous pouvez aussi nous écrire sur Facebook, service@radiookapi.net. Excellente condition d'écoute de cette deuxième partie de l'émission Okapi Service.
Chronique électorale, espace dédié à l'éducation civique et électorale sur Radio Capi. Pour toutes vos questions et préoccupations sur le processus électoral, les experts répondent à vos préoccupations chaque vendredi de 11h à 12h dans Capi Service. Pour participer à cette émission, appelez au 081 89 063 94. Écrivez-nous à service@radiocapi.net. Postez vos questions et préoccupations sur la page Facebook d'Okapi Service.
Merci de votre fidélité à Okapi Service, le magazine de la vie au quotidien. Nous allons à présent aborder la deuxième partie de ce programme. Comme je l'ai annoncé tout à l'heure, nous allons parler de la commémoration du génocide congolais, Génocoste. Quelle est son opportunité aujourd'hui? Vous savez, la première journée nationale d'hommage aux victimes des violences sexuelles liées au conflit et aux autres crimes graves, Génocoste, a été commémorée le 2 août dernier à Kinshasa. Des cérémonies ont été organisées à la place des évolués, au rond-point Victoire, au mur de béton armé de Mongafula et à la cité des l'OUA. Cette célébration a été marquée par des témoignages poignants des deux victimes des atrocités. Alors comment et pourquoi cette célébration aujourd'hui du Génocoste? Comment évolue le processus des réparations, d'indemnisation, voilà, des victimes, etc.? Nous allons aborder toutes ces questions avec nos invités. Nous avons dans ce studio Monsieur Lucien Lundula, directeur général du FONAREV, qui est le Fonds National des Réparations des Victimes des Violences Sexuelles. Monsieur Lucien, bonjour.
Bonjour Monsieur Kanchawa.
Et bienvenue dans cette émission.
Merci beaucoup.
Il n'est pas seul, à côté de lui, Monsieur Kevin Ngunga, directeur général adjoint du FONAREV. Bonjour Monsieur Kevin.
Bonjour Monsieur Jody Kanchawa.
Bienvenue dans cette émission de la vie au quotidien au Capi Service. Alors, la première question, Monsieur le DG, est de savoir, qu'est-ce qu'est le FONAREV?
Très brièvement, le FONAREV est un établissement public qui a été créé au niveau de l'État, qui a été promulguée, la loi a été promulguée en décembre 2022 par le président de la République. Mmh. Et là, nous venons d'être nommés en tant que animateur de FONAREV, donc la direction générale. Et très brièvement, le FONAREV, c'est compte tenu, puisque c'est toujours important de contextualiser, on est tous témoins des atrocités et des récurrentes guerres qu'il y a eu ici au niveau de la République démocratique du Congo, ainsi que des conflits armés et communautaires. Et toutes ces années de guerre et de combats et de violences ont créé un phénomène qui a été la violence, les violences sexuelles, et voilà que le viol a été même institué comme arme de guerre. Mmh. Et avec ça, on se retrouve près de 30 ans avec un grand nombre de personnes, enfants, adultes, qui ont été victimes de ces violences, par aussi bien au niveau communautaire que par l'armée.
Et pendant un moment, on disait même que la RDC est devenue la capitale mondiale du viol.
Tout à fait, tout à fait. Alors, au fait, FONAREV, c'est tout simplement d'abord le résultat dirons-nous, d'un combat de longue haleine des organisations communautaires, des associations des victimes, des associations des ayants droit des victimes, et qui finalement démontre la volonté politique du gouvernement congolais à travers le chef de l'État pour qu'enfin nous ayons une institution étatique, un service public qui pourrait répondre aux besoins de victimes face à toutes ces violences et à ces atrocités qu'il y a eu durant près de 30 ans. Donc c'est vraiment un service public qui sera dédié aux victimes de violences sexuelles et également des victimes des crimes contre la paix et la sécurité de l'humanité.
Bien. Et une deuxième question que je vais adresser à Monsieur Kevin Ngunga. Pourquoi il était urgent d'avoir une institution, disons plusieurs organisations d'accompagnement pour les victimes existent déjà. Voilà. Et en quoi Fonarev sera différent?
Ben, pour la simple et bonne raison que le Fonarev, c'est un instrument de la politique publique d'aide aux victimes. Les organisations qui existent, je pense que bon, il y a plusieurs organisations privées et l'État a décidé à, parce que vous parlez de est-ce que pourquoi il est urgent ou pourquoi il était important maintenant, parce que effectivement ça fait plus de 30 ans que la République démocratique du Congo est fait face à un cycle répété des violences, et ça fait plus de 30 ans que il y a comme une forme d'omerta qui est savamment organisée pour ne pas qu'on en parle, et ça fait presque maintenant depuis l'accession au pouvoir du président, du chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi, que cette question a été remise sur la table, et il a été sensible à cette question, et il a fait en sorte justement que son gouvernement puisse travailler dessus et puisse, j'ai envie de dire, enfin, comment pourrais-je dire, respecter les engagements qu'il avait pris, parce que je rappelle simplement qu'en 2019, il y a eu un addendum au communiqué conjoint signé en 2013 par le gouvernement congolais. Le gouvernement congolais s'était engagé à mettre en place un dispositif pour aider les victimes, donc précisément à créer un fonds de réparation pour les victimes de violences sexuelles liées au conflit et les victimes des autres crimes contre la paix et la sécurité de l'humanité. Et il fallait respecter cet engagement-là. Et on sait, le gouvernement s'est lancé dans a lancé le processus donc depuis 2019 et jusqu'à ce qu'il y ait une loi qui a institué ce fonds national de réparation. Donc c'est un fonds que l'État va alimenter et qui servira justement à identifier les victimes, qui servira justement à aider les victimes à avoir accès à la justice et qui servira également à aider les victimes à avoir accès aux réparations. Donc c'est une réponse aux attentes interminables des victimes.
Depuis 30 ans, vous avez
dit. Exactement, depuis plus de 30 ans.
Plus de 30 ans. Alors, on va accueillir Madame Emmanuela Zandi, et DGA, directrice générale adjointe du Fonarev. Bonjour, Madame.
Bonjour.
Bienvenue dans cette émission.
Merci.
Alors, quels sont les types de victimes concernées par la prise en charge du Fonarev?
Alors, nous avons les victimes de violences sexuelles liées au conflit et les autres crimes contre la paix et la sécurité de l'humanité. Mmh. Et en ce, nous distinguons deux types de victimes, les victimes directes et les victimes indirectes. Mmh. Et c'est les types de victimes qui sont concernées aujourd'hui par la réparation que va mettre en place le Fonds national de réparation.
Mmh. Quand vous dites victimes directes et indirectes, qu'est-ce que cela veut dire?
Alors, victimes directes, c'est les personnes qui ont subi les faits directement. Par exemple, les personnes qui ont connu la violence dans leur propre chair, des personnes qui ont été massacrées, des personnes qui ont été obligées de quitter leur domicile pour aller se réfugier dans un autre endroit.
La dame qui avait témoigné, victime des violences des Kamuina Sapu au Kasaï.
Exactement, c'est une victime directe. Alors les victimes indirectes, ça peut être des conjoints de ces personnes-là, ça peut être des enfants issus de viol, mais à ce titre, nous le considérons aussi comme des victimes à part entière, parce que les enfants qui sont issus de viol subissent la même stigmatisation que leurs parents qui ont été victimes de viol. Mmh. Et les victimes indirectes, c'est aussi toutes ces personnes qui ont vu la souffrance, qui l'ont senti aussi dans leur propre chair, mais qui n'ont pas connu le fait directement.
Voilà. D'accord. Donc, toutes ces deux catégories de victimes seront indemnisées.
Exactement.
D'accord. Alors, une autre question, monsieur le DG, Lucien Lundula. Quelle est la particularité de la journée de la commémoration du génocide congolais qu'on a appelé Génocide?
La particularité de cette journée que nous célébrons pour la toute première fois, il faut le dire, cette journée a été longtemps commémorée par les organisations de la société civile. Et il faut peut-être même partir de l'origine, hein, Génocide, et ça a été au niveau d'une structure au niveau de la diaspora qui ont créé ces mots Génocide, qui veut dire génocide lié aux intérêts économiques, au pillage, disons, qui se déroule ici en RDC. Donc, un génocide qui est commis pour des raisons économiques.
Oui.
Voilà. Donc, ayant plaidé longtemps pour que le gouvernement, l'État puisse reconnaître cela, qu'il y a réellement des atrocités qui ont été commises ici en République démocratique du Congo, finalement, comme l'a si bien dit M. Kevin Ngunga, le DGA, Le gouvernement a tendu la main et l'oreille aux demandes et aux attentes de la société civile. Mmh. Alors finalement, c'est dans l'article 28 de la loi Fonarev que est finalement instituée cette commémoration du 2 août. 2 août qui rappelle en effet le deuxième attaque qu'il y a eu au niveau de la deuxième guerre qu'on a dit de l'Afrique, où le Congo a été agressé. Et à partir de cette date-là, on a institué, au fait, pour se commémorer de nos morts, se commémorer de toutes ces violences qui se sont réalisées ici. Et c'était la toute première fois que le gouvernement commémorait cette date. Et nous avons saisi cette opportunité, profité également de la vitrine des Jeux qui s'est déroulée ici à
Kinshasa. De la francophonie.
Oui, de la francophonie, effectivement, pour pouvoir le faire savoir au niveau d'une vitrine, au niveau international. Mais la journée, comme vous l'avez vu, a commencé par le chef de l'État lui-même, son Excellence Félix-Antoine Tshisekedi, le président.
À la place des
accompagné...
évolués. Pardon? C'était à la place des évolués.
À la place des évolués. Mmh. On a commencé très tôt. Le président était accompagné de la très distinguée première dame. On a eu pose des gerbes et puis on a fait, nous avons installé sur cette place un mini, durant tout, musée ambulant où le président a eu l'opportunité de voir quelques images choquantes de ce qui s'est déroulé ici. Et par la suite, nous avons eu une manifestation au niveau du chapiteau de l'OUA où nous étions en présence des autorités, mais également des victimes et des associations de victimes. Et vous avez eu l'opportunité de partager les témoignages assez poignants, dirons-nous, de deux victimes.
Oui, c'était insoutenable. C'est les témoignages de cette dame qui a parlé de ce qu'elle a subi au Kassai et ce monsieur de Bounia. Et pourquoi avez-vous choisi ces tels témoignages?
Disons, on avait plusieurs possibilités, mais nous avons choisi les témoignages qui, à cette heure-là, pouvaient être le moins choquants. Donc, ça veut dire qu'il y a des témoignages beaucoup plus graves que cela. Mmh. Et il est temps pour nous que les gens mettent une image sur des victimes, parce que jusque là on parle de statistiques, on dit voilà, quand on voit le rapport mapping, on parle de plus ou moins quelques millions encore là, et depuis ça ne s'arrête pas, et il était important qu'on ne parle plus de statistiques, que mais nous parlions vraiment des victimes et mettre un visage sur la victime. Et c'était vraiment ça l'objectif cherché, que les gens sachent que c'est pas de statistiques, mais c'est bien des êtres humains, nos frères, nos sœurs, de la famille, donc des Congolais qui sont là réellement.
On ne parle pas de statistiques. Est-ce qu'on a une idée sur leur nombre?
Ça augmente chaque année, même au moment où nous sommes en train de parler.
Il y a peut-être un viol quelque part.
Exactement. Oui, voilà. Donc c'est tout un combat. Et au jour d'aujourd'hui, nous allons travailler avec l'écosystème de victimes, aussi bien les institutions qui ont déjà certains nombres. On va se référer à des statistiques, mais nous avons l'obligation à un moment donné de créer notre propre banque de données. Et à ce moment-là, avec tout ce qui se déroule au niveau de commission ou de consultation, on aura, une fois terminé, nous aurons un nombre plus ou moins précis de cas de victimes. Mmh.
Nous parlons de la commémoration du génocide congolais Génocoste. Aujourd'hui, avec nos invités, vous avez des questions et préoccupations, vous voulez participer à cette émission, eh bien, envoyez une note vocale au 099-706-9941. 099-706-9941. Monsieur Kevin Ngunga, il y a une autre question, est de savoir quelles sont les activités auxquelles le FONAREF s'adonne à faire suite à cette commémoration.
Alors déjà, faut partir du fait que le FONAREF, qui est un établissement public, certes, ne va rien faire sans les survivants et les survivantes. Donc la première des choses que nous avions faites avant d'aller plus loin, c'est que nous avions à la veille du 2 août rencontré les survivantes pour une première prise de contact, échanger avec elles pour déjà se présenter, mais aussi les rassurer que nous serons à leur côté, non pas devant, non pas en arrière, mais à leur côté pour les soutenir, parce que c'est cela notre rôle. Nous avions également échangé longuement avec les organisations de la société civile, parce que je rappelle simplement que la journée du 2 août concerne et les survivantes, mais aussi les personnes qui leur ont porté secours. Mmh. Donc il était aussi question d'échanger avec les organisations de la société civile afin de envisager en tout cas la suite. Alors, quelle sera la suite? La suite, justement, c'est de ne pas rester cloisonné à Kinshasa, mais d'aller sur terrain, d'aller continuer les consultations, parce que les réparations vont se faire au travers des consultations. Il faut aller consulter, continuer à consulter les survivantes, parce que on ne fera rien sans elles, et on ne fera rien de ce qui ne les concerne pas. Je donne un exemple. On peut aller dans une communauté où la population a été décimée, et que cette communauté ne veut simplement que on leur construise justement qu'on leur apporte
quelques infrastructures, peut-être des centres de santé,
exactement, etc. Des centres de santé. Nous, on va pas leur apporter de l'argent, ils vont nous dire non. Donc on doit consulter. Donc ça sera ça, on fera, il y aura un itinéraire qu'on va bien établir, qu'on a déjà commencé, sur lequel on a commencé à travailler, et oui, très rapidement aller dans ces zones, échanger avec les survivantes, et très prochainement commencer maintenant à lancer des programmes qui permettront aux survivants et survivantes d'entrer dans les réparations.
Bien, il y a un auditeur qui vient de nous envoyer une note vocale. Il s'appelle Safari, il est à Iga Barrière. Je pense que c'est dans la province de l'Ituri. On va l'écouter.
Bonjour monsieur le journaliste, bonjour également monsieur l'invité. Moi j'interviens à partir de Iga Barrière, je m'appelle Safari. Oui, une petite question par rapport au génocide. J'aimerais poser la question de savoir, quand il y a un massacre, une tuerie, combien de morts faut-il compter afin que la tuerie à question soit appelée, en fait, génocide? Quand il en est de trop même chez nous ici, mais lorsqu'on parle de génocide, le gouvernement ou l'État n'arrive pas à accepter pour nous. Donc, c'est ça la petite question. Sinon, merci.
Ah, il faut tuer combien de personnes pour qu'on arrive finalement à parler du génocide? Madame Emmanuela.
Je pense que vous l'avez entendu dans le discours du président de la République, qui a repris lui-même les mots « génocide des Congolais ». Face à toutes ces tueries et tous ces massacres qui sont perpétrés contre nos frères et sœurs, et c'est-à-dire que le gouvernement comprend l'urgence avec l'invasion de plusieurs groupes armés aujourd'hui à l'est du pays, qui sont voilà, commandité par le Rwanda. Je parle du gouvernement rwandais. Mmh, oui. Aujourd'hui, comme le Rwanda le fait d'ailleurs, on parle du génocide rwandais. Mmh. Alors aujourd'hui, le gouvernement congolais est en phase avec ce mot génocide, parce qu'on a compris qu'il y a énormément de Congolais. Ils sont comptés par milliers. Les décomptes s'est arrêté à 6 millions de morts en 2010 avec le rapport McKinsey.
Aujourd'hui,
c'est au-delà. Et donc, c'est important aujourd'hui de parler du génocide congolais. Et évidemment, je rejoins la question de Safari. C'est très important de poser cette question. Et je voudrais le rassurer qu'il y a cette... qu'il y a cette volonté politique oui. de pouvoir inscrire cela comme génocide congolais et pouvoir faire quelque chose, évidemment.
Mmh. Oui, monsieur Lucien.
Oui, j'aimerais compléter ce que ma DGA vient de... Il n'est pas question tout simplement d'abord de nombre. Il y a le endroit, il y a ce côté, le caractère haineux de la violence ou de la tuerie. Mmh. Si on regarde, entre guillemets, selon le droit, ça serait, les génocides seraient un crime haineux et il est, au fait, on regarde ce côté de vouloir exterminer soit une communauté, soit un peuple, soit une tribu, avec vraiment avec beaucoup de violence et d'atrocité. Mmh. Et dans ces termes-là, par rapport à chez nous, il n'y a même plus à démontrer qu'il y a eu cette volonté de supprimer toute une communauté et avec une violence et une atrocité sans nom. Oui. Et dans ce cas-là, nous, en tant que Congolais, il est crucial que nous, en tant que Congolais, nous puissions déjà le dénoncer, parce que ça fait plus de 30 ans que ça dure. C'est vrai que en termes de génocide, parce que la critique vient, oui, mais ça n'a pas été reconnu au niveau international, voilà. Mmh. Mais je pense que c'est un processus. Nous, nous devons déjà dénoncer les crimes qui se déroulent ici et les caractères haineux et des atrocités. Et par après, ben, c'est un processus. On verra comment nous allons évoluer avec ça. Ce qui est vrai, il faut absolument accompagner les victimes dans la recherche non seulement de la vérité, mais dans la poursuite de bourreaux. Et par après, voir comment nous pourrons au niveau international, il y a tout un plaidoyer que nous allons procéder pour que cela soit reconnu également de manière internationale.
Monsieur le DG, oui. Déjà, le concept de génocide a fait polémique il y a quelques jours sur les réseaux sociaux. Plusieurs personnes déplorent une privatisation de la part des institutions publiques. Comment faites-vous pour que ce concept reste inclusif et que tous les Congolais commémorent ces jours de partout où ils se trouvent?
Monsieur Kanchama, ce sujet ne peut pas être un sujet à polémique. Hein. Avant que nous n'arrivions au 2 août de cette année, nous avons eu plusieurs réunions avec les représentants des associations et aussi bien des victimes que des ayants droit. On a échangé sur toutes ces questions. Aujourd'hui, le plus important, c'est qu'est-ce qu'ensemble nous pouvons faire pour que cela puisse être internationalement reconnu. C'est vrai qu'il y avait un problème de logo, il y avait un problème on ne peut pas privatiser. Au fait, c'est aujourd'hui Genocos qui devient institutionnalisé. Eh ben, c'est la réussite de la communauté de la société civile. Ils ont voulu que ça soit reconnu par l'État. Et il y a une volonté politique du chef de l'État pour que cela soit fait avec les institutions de la République.
Donc qu'il faut attendre une reconnaissance internationale ou pas?
Pas du tout. C'est la preuve, on l'a commémoré. Donc on n'a pas entendu que ça soit décidé au niveau des Nations Unies ou ailleurs. Mmh. Nous, en tant que Congolais, nous constatons qu'il y a eu des atrocités dans ce pays et nous décidons qu'il était temps ou assez important pour nous de les dénoncer, de le faire savoir au niveau du monde.
Bien, alors, quelles sont les actions que le Fonarev compte poser pour la réparation des dommages causés, Monsieur Kevin?
Alors déjà, il faut rappeler qu'il s'agit effectivement, comme vous l'aviez dit, d'une réparation. Et la réparation a plusieurs formes, donc cinq formes, on va dire. La première forme de réparation, c'est ce qu'on appelle la restitution. Et la restitution suppose que, je donne un exemple, il y a une victime qui a perdu lors des massacres sa maison parce qu'elle a été incendiée, ben, le Fonarev va devoir restituer, en tout cas, à part égale, hein, la maison, et selon l'évaluation qui est faite. Si on ne peut pas l'aider à retrouver sa maison physique, mais on va lui donner une indemnité qui correspond à cette maison. Si la restitution, c'est également... une victime qui a perdu son emploi, qui a perdu, qui n'a plus accès à la scolarité, ben nous allons faire en sorte qu'il retrouve un emploi ou bien qu'il ait accès à la scolarité. La deuxième forme, c'est ce qu'on appelle la réadaptation. La réadaptation suppose que la victime a perdu, par exemple, a connu dans sa chair, comme Madame Zandi le disait, des dommages corporels. Donc, elle a...
Par exemple, la dame du Kassai qui a dit que chaque fois qu'elle porte des talons, elle saigne. Comment vous allez l'aider?
Exactement. Donc, il faut qu'elle accède justement à des soins médicaux appropriés pour qu'elle arrive à se réadapter, on va le dire ainsi, mm-hmm. ou bien il y a une forte problématique, c'est celle de le traumatisme. Le traumatisme, il est très très important et c'est une vraie question. Et il y aura une batterie de psychologues qu'on va mettre en place, qu'on va mettre en mouvement pour justement accompagner les victimes. Et la troisième forme, c'est celle qu'on appelle l'indemnisation. Parce que beaucoup, lorsque l'on parle de réparation, ne résument les réparations qu'à l'indemnisation, qui suppose
l'argent.
Oui. L'argent. Et là encore, c'est une vraie question parce qu'il faut évaluer le préjudice avant de donner de l'argent. Donc c'est toute la psychologie qu'il faut voir. Est-ce que l'on donne 100 dollars à Monsieur X parce que il a été violé à tel endroit? Est-ce qu'on donne 2 000 $ à Madame Y parce qu'elle a été violée à tel endroit? Donc pour ça déjà,
il y a déjà un critérium.
Exactement, il y a un critérium. On va mettre en place ce qu'on va appeler un référentiel d'indemnisation pour permettre à ce qu'il n'y ait plus de disparité. Parce qu'aujourd'hui, lorsqu'on regarde les décisions de justice, et c'est pas seulement ici au Congo, même en France, ça a posé problème. C'est la raison pour laquelle il y a eu, par exemple, ce qu'on a appelé le tableau d'Intiac qui a permis justement de lister tous les préjudices et le montant auquel les victimes peuvent prétendre. Et puis troisième forme, c'est celle qu'on appelle la satisfaction, c'est justement permettre aux victimes, permettre en tout cas, l'État doit premièrement reconnaître qu'il y a eu des massacres, reconnaître et exprimer ses regrets parce que l'État n'a pas été capable de pouvoir protéger la population, et l'État doit aussi être capable de présenter ses excuses et puis pour aboutir en tout cas à des nouvelles perspectives. Et ce à quoi l'événement du 2 août s'inscrit dans le cadre des réparations, ça il faut le souligner, parce que le chef de l'État,
on avait même entendu le ministre des Affaires humanitaires, je crois,
droits humains
mm-hmm. qui a dit qu'il était quelque part, il a dû s'agenouiller pour demander pardon.
Tout à fait. Et ça, c'est une question très importante. C'est pour ça que lorsque vous posiez la question de savoir pourquoi est-ce que le génocide pose problème, moi je dis que ça ne pose pas problème aux survivants et survivantes. Au contraire, pour les survivants et survivantes, c'est une réparation qu'elles ont reçue ce jour-là. C'est une réparation mémorielle, c'est une réparation symbolique, parce qu'on ne peut pas réparer si on ne reconnaît pas déjà la faute. Donc l'État a reconnu qu'elle a été... Pendant plusieurs années, là nous parlons dans le cadre de la continuité de l'État, parce que ce n'est pas le chef de l'État actuel qui a commis des massacres, mais il a porté sur lui cela. Il a porté sur lui le fardeau de ceux qui n'ont pas été capables de protéger la population. Et il a vraiment démontré qu'il est le garant de la nation, et il a exprimé ses regrets. Et ça, c'est quelque chose sur lequel nous devons aussi nous appuyer, parce que les réparations commencent déjà à partir de là. C'est vraiment la première chose à faire. Et par la suite, la dernière forme, c'est ce qu'on appelle les garanties de non-répétition. Parce que on doit, l'État qui a reconnu son tort, qui reconnaît qu'il y a des massacres, et dans le cas du Congo, c'est un génocide, on doit le dire. D'ailleurs, un auditeur disait, je crois un invité dans une émission disait qu'il y a eu plusieurs génocides au Congo. Le génocide congolais est assez complexe parce que il y a cette volonté de massacrer nos populations. Et ça s'est étendu dans le temps. Donc les garanties de non-répétition, c'est notamment le fait pour l'État de mettre en place des mécanismes qui garantissent que les crimes qui ont été commis ne vont plus jamais se répéter. C'est dans ce combat qu'aujourd'hui le FONAREF s'inscrit, c'est dans ce combat que l'État est en train de s'inscrire au travers de la loi qui a institué le FONAREF, qui a institué la journée du 2 août, et c'est une loi qui protège et qui répare en tout cas les victimes. Et c'est ça, le FONAREF va vraiment être le bras armé de gouvernement pour accompagner les survivants et survivantes dans cette réparation, et les communautés aussi dans le relèvement, parce que il n'y a pas que des réparations individuelles, mais il y aura également des réparations collectives. Et collectives, c'est toute la communauté qui est réparée.
Commémoration du génocide congolais, génocide. On en parle aujourd'hui dans cette émission au Capi Service. Si vous avez des questions et préoccupations, vous voulez participer, envoyez-nous une note vocale au 099-706-9941. 099-706-9941.
Le magazine des Nations Unies.
Magazine des Nations Unies. Le magazine des Nations Unies, tout sur les faits saillants des agences du système des Nations Unies. Chaque dimanche à 8h30 et en rediffusion à 19h05.
commémoration du génocide congolais, Génocoste. Alors là, j'ai la question d'un internaute qui s'appelle Exaucé. Il nous a écrit depuis Bukavu. Il dit, à mon avis, l'État congolais devrait soutenir matériellement et techniquement la fondation Panzi du docteur Denis Mukwege. À son avis, c'est un grand réparateur de femmes. Madame Emmanuela, quelle est votre réponse?
Évidemment. Travailler avec l'écosystème congolais. Et quand on parle d'écosystème, évidemment, on voit la Fondation Panzi qui a été à pied d'œuvre depuis des années pour porter secours aux victimes de violences sexuelles. Et puis, comme vous le savez, les violences sexuelles laissent des conséquences extrêmement graves sur la santé physique et psychique de la personne, avec une très grande souffrance sur le plan psychologique et matériel même, et qui entraîne une certaine désinsertion socio-professionnelle et affective. Et évidemment, on ne va pas travailler seul. Le Fonarev va mettre en place tout un écosystème, travailler avec les organisations qui ont été pendant des années aux côtés de victimes et leur donner même des moyens. Parce que la loi, en fait, la loi sur les Fonarev, sur les réparations, prévoit 3% de toutes les ressources collectées par le fonds qui iront directement à cet écosystème-là. C'est-à-dire, ça peut être des organisations nationales, internationales, ou des cours et tribunaux, des hôpitaux, des cabinets de psychologues, justement pour arriver à ce qu'on appelle un relèvement pour arriver à réhabiliter en fait la personne. Parce que comme vous le savez, nous sommes axés sur plusieurs piliers, sur 6 piliers exactement. Donc nous avons d'abord la prévention et on va travailler justement avec tout cet écosystème pour aider à prévenir en fait les violences et même ceux liés au conflit. Et donc aussi on va être dans l'accès à la justice. L'accès à la justice, ça veut dire que nous allons travailler avec les cours et tribunaux, mais aussi nous allons travailler avec l'écosystème qui a déjà mis en place un certain nombre de mécanismes pour accompagner les victimes devant la justice. Et quand je parle de l'accès à la justice, on va faire en sorte que la notion de protection des victimes et des témoins soit à la base de notre action et surtout que les personnes, que les victimes aient véritablement gain de cause et qu'ils se sentent protégés et sécurisés.
Madame Emmanuela, il y a des victimes qui ne veulent pas briser le silence autour du viol. C'est une honte peut-être pour la famille, pour la communauté. On ne veut pas en parler.
Évidemment. Et pour ces victimes-là, on va aller dans la sensibilisation, mais on reste focalisé sur un consentement éclairé de la victime. Si la victime ne veut pas aller en justice, si la victime ne veut pas être connue, alors on respectera la volonté de la victime. Donc ça veut dire que pour nous, ce qui est très important, c'est de relever cette victime. Si elle décide, en fait, on va aller vraiment sur sa volonté. On ne va pas outrepasser la volonté de la victime pour faire ce que nous on pense qui est mieux pour elle, parce que c'est elle-même, c'est ce qui est mieux pour elle.
C'est elle qui décide. Voilà.
Et c'est elle qui décide. Et,
Monsieur Lucien.
Et je rajouterai également quand on parle de victimes, ou au fait il faut restituer ou recadrer le Fonarev qui est dans la justice transitionnelle, c'est-à-dire du crime du passé, et il ne s'agira pas seulement des réparations au niveau judiciaire, il y a des centres de réparation également administratives, c'est-à-dire qu'on peut protéger, oui bien sûr protéger l'identité de la victime si la victime ne veut pas nécessairement affronter ses bourreaux, mais la réalité, quand on est dans le cadre de la justice transitionnelle, on prend en compte tout l'aspect de la réparation, y compris l'anonymat de la victime.
De la victime.
Donc ça sera respecté. Rien ne sera fait sans les victimes, et on tiendra en compte effectivement de toutes ces sensibilités ou de ces questions qui peuvent des fois, tout simplement pour des raisons de protection ou de crainte de stigmatisation, que certaines personnes préfèrent rester dans l'anonymat. Donc on tiendra compte effectivement de la vie des victimes.
Monsieur le DG, on a suivi le chef de l'État dans son discours qui a fait appel à la mise en place du tribunal pénal international pour juger les crimes de guerre.
Tout à fait, tout à fait. C'est-à-dire, ça a été bien circonscrit par le chef de l'État. On est là dans un processus de victimes, c'est-à-dire, et ici, au niveau de l'accompagnement des victimes au niveau de la justice pour que les bourreaux puissent être traduits en justice et obtenir réparation. Mais il y a également ces plaidoyers qui sera fait au niveau des institutions pour qu'on ait un tribunal pénal international pour les crimes commis en République démocratique du Congo. Et je pense que les bourreaux, en tout cas, ne seront pas en paix.
Et puis, il a demandé qu'une loi, qu'on mette en place une loi qui empêche à tous ces bourreaux, ces criminels, de se retrouver dans les institutions après.
Tout à fait. C'est le vetting. Ce qui rentre dans le cadre de garantie de non-répétition. Mmh. Il y a des victimes qui se sont plaintes dans les témoignages où ils vivent avec le bourreau au quotidien. Et on retrouve même certains à des postes très élevés dans l'administration ou dans l'armée. Et c'est de tout ça qu'il est question.
Bien, commémoration du génocide congolais. Geno Coste, on en parle aujourd'hui dans cette émission de La Vie au quotidien au Capi Service. Une autre question que je vais adresser à Monsieur Kevin Ngunga, qui est le directeur général adjoint du Fonds Narev. Quelles sont les initiatives, je veux d'abord poser cette question. Comment les Congolais peuvent participer au travail que votre institution est en train d'abattre sur la question des victimes des violences liées à la guerre dans notre pays?
Alors, c'est vrai, c'est une très bonne question parce que il s'agit là d'une question nationale, donc qui concerne tous les Congolais. Cela fait appel justement à la solidarité nationale. Et nous, au sein du FONAREV, Madame Zondi l'a dit, il y aura un fort programme lié à la sensibilisation. Et nous avons besoin justement que les Congolais s'approprient déjà cette question. C'est parce que malheureusement, depuis plus de 30 ans, comme je le disais, il y a une minorité qui s'intéressait à cette question. Et les victimes, les survivantes n'étaient pas, en tout cas, n'étaient pas considérées déjà. Quand je dis n'étaient pas considérées, parce que les gens pensaient que c'était loin de nous. Mmh. D'ailleurs, beaucoup ont tendance à parler de la guerre à l'est du Congo, alors que la guerre est partout au Congo. Mmh. Donc, vous voyez, il faut déjà qu'il y ait cette prise de conscience de tous les Congolais que nous avons un problème. Et que partout où nous pouvons être, nous avons besoin de lever la voix sur ce qui se passe au Congo. De ne pas nous taire. De ne pas, quand je parle de partout où on peut être, notamment, je fais un grand appel à nos frères et sœurs qui se trouvent dans la diaspora et qui ont un accès privilégié dans les grandes institutions, qu'ils fassent entendre la voix de ce qui se passe au Congo afin que justement ce génocide soit reconnu dans les instances internationales. Il faut des vrais plaidoyers des Congolais vivant à l'étranger ou même ici qui parlent de ce problème, et nous avons besoin également de leur implication lorsque les programmes seront mis en place pour que les Congolais se réapproprient, en tout cas s'approprient ces mécanismes de réparation, et on verra dans quelle mesure les Congolais pourraient participer. Et il y aura également peut-être dans les années qui viennent, parce que ce qui est prévu, c'est que il y ait on parlera certainement des financements, mais que les Congolais aussi, dans une certaine mesure, comme dans d'autres...
Ah oui, déjà, quelles sont vos sources de financement? ça, c'est la question intéressante.
Mais en tout cas, déjà, il y a l'État, il y a les subventions budgétaires de l'État, il y a déjà une dotation initiale également. Tout le processus est déjà en cours, et ça, c'est très, très bien. Oui. Et donc, on voit vraiment l'engagement du gouvernement sur cette question. Il y a également ce qu'on appelle 11% qui est réservé au FONAREV, qui proviennent des rédévances minières. Pourquoi les rédévances minières? Parce que la source, la majorité de nos problèmes, d'ailleurs, c'est d'où la question du génocide, donc les génocides pour des raisons économiques.
Liés
aux gains économiques. Et les gains économiques proviennent très souvent des nos minerais. Donc c'est la raison pour laquelle le législateur a décidé d'accorder 11% des rédévances minières qui sont versés par les miniers au FONAREV, pas à nous comme individus, mais en tout cas, je ne dirais pas au FONAREV en tant que tel, mais aux survivants et survivantes, parce que c'est leur argent, ce sont des revenus qui vont bénéficier en tout cas à leur réparation. Oui. Il y a également prévu une contribution des assurés qui se rajoutera au montant aux primes d'assurance, et le taux de cette contribution sera fixé par le ministère des Finances. Et il y a également des dons, des legs, parce que c'est un établissement public. Oui. Donc c'est dans ce sens-là que je faisais appel à cet élan de solidarité. Lorsqu'on lancera, par exemple, une semaine de solidarité, ou ce qu'on appellera certainement le télédon, que les Congolais participent également à cet effort.
Il y aura des levées de fonds.
Exactement.
Vous allez organiser des manifestations comme ça.
Des manifestations, comme ça se fait un peu partout ailleurs, pour que les Congolais participent solidairement à cette question. Il y aura également des placements de fonds, mais là, en tout cas, ce sont des mécanismes qui viendront par la suite. Mais à ce jour, la source des revenus qu'on pourrait dire la plus sûre, ce sont les redevances minières dont on parlait.
Bien, il y a un auditeur qui nous a envoyé une note vocale. Bienvenue depuis Kolwezi, on va l'écouter.
Bonjour Radio Okapi, c'est bienvenue. Je vous fais ce voix ici à partir de la province de Lualaba, dans la ville de Kolwezi. J'ai juste une petite question aux auditeurs. Est-ce que vous nous dites de l'institution qui accompagne les Genacost? Quels sont les mécanismes qui sont entrepris pour favoriser ou inclure tout le monde dans les provinces les plus touchées? Parce qu'on remarque de plus souvent que on ne sent pas cette institution, mais après un moment, à travers les émissions comme celle-ci, nous sentons que ça existe. Alors quels sont les mécanismes qui sont entrepris au profit de victimes qui sont d'une part massacrées indirectement ou directement, de s'adhérer à cette institution? Merci.
Merci, bienvenue de Kolwezi, monsieur le DG.
Oui, je comprends l'inquiétude de l'auditeur qui se tranquillise. Au fait, c'est une institution qui a moins d'un mois en termes d'opérationnalisation.
Ça vient d'être
mise en place, mais l'avantage de cette mise en place, c'est que ça fait, quand on regarde historiquement parlant, c'est depuis pratiquement 2020 qu'il y a eu, partant tout d'abord du communiqué conjoint des Nations Unies et son addendum, les commissions, la table ronde qu'il y a eu par rapport aux victimes et aux violences, puis il y a eu une commission ad hoc. L'équipe actuelle que vous voyez là, ça fait plus de deux ans et demi qu'elle travaille et à la tête avec les intentions, sachant plus ou moins qui allait être comme animateur ou à la direction. Ça fait plus ou moins 4-5 mois qu'on travaille ensemble. Donc, c'est-à-dire qu'il y a toute une série de choses qu'on a préparées. Mais comme nous ne pouvons rien faire, évidemment, sans les victimes, nous allons faire une itinérance au niveau des provinces ou tous les sites où il y a eu violence pour qu'ensemble nous puissions vraiment tenir compte de ces réalités-là. Il y a vraiment un grand travail de sensibilisation et d'appropriation de la structure au niveau de la population. On va même aller voir au niveau des écoles, tout simplement les ministères de PST, pour qu'il y ait un programme qu'on puisse sensibiliser sur toutes ces questions de génocide et de violence, pour que le commun de mortels, les citoyens lambda, ça soit quelque chose qui puisse tout simplement maîtriser et connaître le contour de ça. Et pour ça, qui ne s'inquiète pas, au niveau du Fonarev, on va s'assurer que ça soit vraiment un problème, une problématique de tous les Congolais.
Que tous les Congolais s'en approprient.
Voilà. Et on ira province par province. C'est un travail de longue haleine. On est conscient de ça, mais nous devons sensibiliser afin que chaque Congolais puisse s'approprier le processus.
Bien, Madame Emmanuela Zandi, il y a un auditeur, un internaute qui vient de nous écrire depuis Beni, au Nord Kivu. Il s'appelle Kakule. Il dit pourquoi avoir attendu longtemps pour mettre en place le Fonarev, surtout du fait que nous avons perdu beaucoup de personnes victimes des violences sexuelles en République démocratique du Congo. Madame Emmanuela.
Alors, je dirais que maintenant, c'est la volonté politique qui conduit tous ces travaux jusqu'à ce qu'on en arrive là. Avant, peut-être, il n'y avait pas de volonté politique pour pouvoir arriver à mettre en place un outil technique pour réparer les victimes. Et aussi, on s'est rendu compte que la dignité d'une personne vaut plus que tout. Donc, c'est-à-dire qu'on ne peut pas envisager avoir des générations futures avec qui pourraient aider ce pays si on ne rentre pas dans notre passé et qu'on puisse guérir, reconstruire ce passé-là. Et on s'est dit, les victimes ont besoin d'entendre les conséquences des atrocités sur leur vie. Et ce, c'est très important pour eux, parce qu'ils vont se dire que voilà, on nous a compris maintenant, on sait qu'on a vécu quelque chose de grave pour lesquels on a droit à ces réparations là. Donc c'est important aujourd'hui de se dire que il y a quand même une très grande volonté politique pour que le gouvernement puisse accéder à cette cette demande criante de victimes depuis plus de 30 ans.
Et donc, il faut reconnaître aussi l'implication personnelle de la première dame.
Exactement. Exactement. La première dame, elle a joué un rôle très prépondérant dans la mise en place, justement, de ce fonds. Elle a été avec les équipes depuis le début de la commission, comme les DG le disaient, depuis le début de la table ronde, de la commission ad hoc. Elle a poussé, elle est même allée au Parlement, au Sénat. Elle a fait de son mieux. Elle est allée même à Londres, justement, pour évoquer cette question des violences sexuelles en milieu de conflit. Elle a été sur tout le front pour aider cette institution de naître, et elle continue justement à accompagner cette institution pour que tout se passe bien. En tout cas, elle a donné de son être et de tout ce qu'elle a eu pour mettre en place cette institution.
Donc, Monsieur Lucien, en conclusion, par rapport à la question, c'est il y a eu volonté politique du chef de l'État, du couple présidentiel, des institutions de la République. La question perdure, vous l'avez si bien dit, ça fait 30 ans, près de 30 ans que ça, on aurait dû, l'État aurait dû, quand on parle de justice transitionnelle, l'État reconnaît déjà ses faiblesses. Il reconnaît qu'on aurait dû faire ça avant, mais on n'a pas fait. Et aujourd'hui, par la volonté politique du chef de l'État et de son gouvernement et des institutions de la République, avec un plaidoyer sans nom de la distinguée première dame, nous sommes finalement parvenus à cette loi Fonarev qui protège et répare les victimes. Donc il faut bien insister que c'est vraiment le gouvernement actuel et le président et les chefs de l'État, une volonté politique de corriger les erreurs du passé.
Bien, alors comment Fonarev va travailler en collaboration avec d'autres acteurs tels que le gouvernement, les organisations de la société civile et autres?
C'est,
comment se fera cette collaboration?
Nous allons faire, en fait, nous aurons un cadre de concertation. Il y aura un cadre de concertation
permanent,
qui sera non seulement ici à Kinshasa, même au niveau des provinces, où nous allons aller site par site, un cadre. En fait, les réparations, c'est différencié d'une zone à une autre. Je crois que le DGA l'avait si bien développé. Les besoins du Nord Kivu ne sont pas les besoins du Sud,
de l'Ituri
et tout ça. Donc c'est vraiment important que nous puissions collaborer étroitement avec l'écosystème de victimes. Et c'est comme ça que nous allons procéder à partir de ces cadres de concertation. On a notre ministère de tutelle, le ministère des droits humains, avec qui nous allons collaborer étroitement, par exemple, pour la liste conjointe consolidée. Donc, au fait, ça ne peut. Au fait, c'est le sujet qui ne doit pas avoir de clivage. On est obligé de travailler dans un cadre de concertation global et régulier et permanent, jusqu'à ce que nous puissions commencer par ces réparations aussi bien collectives qu'individuelles.
Bien, on s'achemine petit à petit vers la fin de cette émission. Une autre question à Monsieur Kevin Ngunga, DGA du Fonarev, est de savoir s'il existe, une politique de prévention des futurs crimes et quelles sont les actions entreprises dans ces domaines.
Alors, on reviendra encore sur cette question. C'est la sensibilisation et encore la sensibilisation. Parce que, en fait, on ne se rend pas compte aujourd'hui que l'une des causes des violences sexuelles dans ce pays est déjà le fait que l'image de la femme dans la communauté est complètement abîmée. C'est-à-dire qu'on a une image un peu rabaissante de la femme, un peu stigmatisante de la femme. Et ça doit changer. On doit considérer que la femme n'est pas derrière un homme. La femme est à côté, est aux côtés et d'un homme, d'ailleurs, pour les plus croyants.
On dit
croyants,
souvent derrière un grand homme.
Moi, je considère que c'est aux côtés d'un grand homme que se cache, en tout cas, que se trouve une grande femme. Pour les croyants, on verra bien que Dieu s'est servi de la partie, l'une des parties les plus dures pour, en tout cas, créer la femme. Donc, c'est pas un être faible, c'est un être qui a beaucoup de force. Donc, déjà, il faut partir de là. Il faut partir de là pour que les Congolais comprennent déjà que nous devons avoir conscience que nous avons besoin que cette nation, en tout cas, nous avons besoin de la femme également, mais aussi nous avons besoin de protéger nos richesses. Parce que ça, c'est une question importante. Si on arrive parfois à ce que cette guerre perdure, parce qu'il y a aussi, le chef de l'État n'a cessé de le dire, il y a aussi des trahisons d'une certaine manière. Donc il faut que les Congolais aiment leur pays, s'approprient ce combat et que ensemble nous puissions avancer en toute sérénité. Et nous allons faire en sorte que nous allons en tout cas nous engager dans cette voie. Et on en discutait même avec le directeur général, même au sein du personnel, nous allons veiller à ce que la parité soit respectée.
D'accord, on a plus beaucoup de temps. Peut-être une dernière question rapidement que je vais adresser à Madame Zandi. Comment vous allez identifier les victimes? Est-ce qu'il y a des mécanismes, un numéro de téléphone? Comment vous allez procéder?
Alors, nous allons mettre en place un numéro vert, mais aussi nous allons créer ce qu'on appelle des boutiques d'identification dans plusieurs territoires, parce que il y a des problèmes de il y a plusieurs problèmes auxquels nous sommes confrontés, notamment l'éloignement dans certaines zones, dans certains territoires, et donc nous allons faire en sorte que les victimes aient la possibilité la plus exacte de se présenter et de s'identifier, et nous allons faire en sorte que tout soit le plus digitalisé possible. Donc dans ce sens, nous allons peut-être pouvoir atteindre beaucoup plus de victimes et nous allons bien évidemment aller vers les victimes.
Bien, il ne me reste plus qu'à vous dire merci, Monsieur Lucien Lundula, oui, voilà, Monsieur Kevin, Madame Emmanuela, je vais dire Zandi, merci beaucoup d'avoir répondu à notre invitation et à la prochaine.
Merci,
bonne journée.
Mesdames et messieurs, c'est par ici que s'achève ce magazine de la vie au quotidien au Capi Service. Merci de nous avoir suivis. Restez branchés sur la fréquence de la paix et à la prochaine.